Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons étudier les effets de l'Eucharistie. Saint Thomas nous dit qu'elle est efficace de deux façons. Tout d'abord, par le Christ présent et immolé. C'est ce que je vous ai développé dans le dernier sermon, à savoir que l'Eucharistie, renouvelant, représentant, rendant de nouveau présent le sacrifice de notre Seigneur, porte les effets de la croix partout où la messe est célébrée. Et deuxièmement, l'Eucharistie est efficace par la réception personnelle du sacrement. Nous verrons que cette réception peut se faire soit par la communion sacramentelle, soit par la communion spirituelle, mais nous verrons cela dans un autre sermon. Et par conséquent, le Concile de Trente nous dit que la messe est efficace pour les vivants, pour les morts, et saint Thomas enseigne bien qu'elle est efficace pour ceux qui n'y assistent pas, et bien sûr, évidemment, pour ceux qui y assistent. Quelques exemples. Lorsque Christophe Colomb pose le pied pour la première fois en Amérique, il fait célébrer une messe, et cette messe n'est pas tellement pour son équipe que pour prendre possession du continent au nom du Christ roi. Et pour que le Christ roi commence déjà la sanctification de ses contrées et des peuples. Nous voyons la même chose par les missionnaires papous qui célèbrent la messe alors que aucun papou n'est encore converti, que les papous ne se rendent pas bien compte de ce dont il s'agit, mais parce qu'ils sanctifient. Il sanctifie cette terre. Il faut donc reprendre l'enseignement de saint Thomas d'Aquin sur la passion pour bien comprendre ce que sont les effets de la messe. Lorsque nous arrivons à la messe, nous arrivons au sommet et tout l'enseignement de saint Thomas, c'est-à-dire tout l'enseignement de l'Église, est compris. Toute la richesse de l'Église, toute la richesse de Dieu incarné, de Dieu sur terre, de l'œuvre de Dieu ici-bas, est comprise dans la messe, dans l'Eucharistie. Il faudrait donc reprendre le traité de la grâce, l'union à Dieu, la vertu, à commencer par la vertu de charité, et puis toute l'incarnation, la présence de Jésus. Rappelez-vous ce sermon que je vous ai fait, les mystères du Christ sont nos mystères, et c'est à plus forte raison vrai lorsqu'il s'agit de l'Eucharistie, puisque les mystères du Christ nous touchent par l'Eucharistie et touchent le monde entier aujourd'hui par l'Eucharistie. Un prêtre disait que de même que la croix est le centre du monde, la messe, c'est-à-dire l'Eucharistie, est le centre de l'histoire, et que la fin du monde viendra lorsqu'il n'y aura plus de messe. Les effets de la passion et donc de l'Eucharistie, tout d'abord, la passion cause notre salut par mode de mérite. En disant cela, saint Thomas explique que le Christ nous communique ses mérites, parce que nous ne faisons qu'un avec lui, un peu comme la main mérite pour le pied, par exemple, ou la tête mérite pour la main. Il est évident que cette communication des mérites se fait justement par la Sainte Eucharistie. La passion du Christ a causé notre salut par mode de satisfaction. Si notre Seigneur a souffert sa passion, vous vous rappelez, mes bien chers frères, c'était principalement pour racheter l'homme. Et ce rachat, il le communique justement par l'Eucharistie. Et donc le sacrifice de la messe est satisfactoire, c'est-à-dire qu'il satisfait pour le péché, il répare pour le péché. Et cela, les protestants le nient. Les protestants ont voulu évacuer le péché parce que Luther désespérait, et il était plus simple évidemment de nier l'existence du péché que de chercher à se convertir. Et par conséquent, les protestants nient le caractère satisfactoire de la messe. La passion du Christ a causé notre salut par mode de sacrifice, c'est-à-dire par mode d'union à Dieu. Saint Thomas cite à ce moment-là Saint Augustin, l'union à Dieu, et nous allons voir que vraiment, alors l'Eucharistie, c'est vraiment l'union à Dieu, c'est le premier sermon que je vous ai fait sur l'Eucharistie, c'est cela. Enfin, la passion du Christ a causé notre salut par mode de rachat, c'est-à-dire que la dette est payée, non seulement nous sommes sauvés, mais la dette est payée. La passion du Christ est la cause propre de la rémission des péchés. Saint Thomas d'Aquin étudie alors en détail les effets de l'Eucharistie. Il en donne principalement quatre. Elle cause la grâce, elle donne la gloire, elle remet le péché mortel, elle remet le péché véniel. Elle cause la grâce, d'une part par la présence du Christ et par la passion du Christ, comme je vous l'ai expliqué, mais également par mode de nourriture, parce que c'est ce que signifie le sacrement, par mode de nourriture, et par mode d'union à l'Église, comme tous les grains sont broyés pour faire un seul pain, les grains de raisin sont broyés pour faire un seul vin, on a là une profonde union avec le Christ, et donc avec les autres chrétiens dans la charité, et ça c'est l'effet premier de l'Eucharistie, cette union au Christ dans l'Église, avec toute l'Église. Per ipsum et in ipso, par lui et en lui. L'Eucharistie donne la gloire, de deux manières encore une fois. Par sa passion, le Christ a ouvert la voie du ciel, et puis, par la nourriture eucharistique qui nous donne l'union à Dieu. Voyez, par la passion, le Christ donne la gloire, il ouvre la voie du ciel. On pourrait dire que les Américains, qui ignorent encore que Christophe Colomb a débarqué sur leur sol, malgré tout, la voie de la gloire, la voie du ciel, leur est déjà ouverte. Et très tôt, des Indiens d'Amérique vont se convertir, par exemple Sainte Rose de Lima, ou bien l'Indien Juan Diego, qui a une apparition de la Très Sainte Vierge. Cette apparition de la Très Sainte Vierge est le signe, vous voyez, elle nous montre ce que Dieu a déjà réalisé. Et la Sainte Vierge montre donc la voie du salut, la voie du ciel. Il est évident que la gloire, ici-bas, nous n'en possédons qu'un gage. Qu'est-ce que c'est qu'un gage ? C'est quelque chose que nous tenons, qui est réel, et qui nous donne le droit d'aller jusqu'au bout. Évidemment, nous pouvons toujours perdre le gage, et donc perdre la gloire, hélas. Bien sûr, ici-bas, la gloire est possédée imparfaitement, mais malgré tout, c'est la gloire du ciel que nous possédons déjà un peu, puisque nous vivons déjà, par la foi, dans la sagesse de Dieu, dans l'éternité de Dieu, parce que par la charité, nous possédons déjà Dieu. Saint Paul dit que c'est à cause des communions sacrilèges qu'il y a tant de maladies. Parce que la communion, qui est une nourriture divine, transforme non seulement nos âmes, mais également nos corps. Elle divinise d'une certaine manière nos corps. C'est comme une irradiation, vous voyez, qui les élève, qui les rend presque spirituelle d'une certaine manière, qui leur redonne un petit peu des privilèges donnés à Adam et Ève. Et à l'inverse, les communions sacrilèges rendent le corps malade. Ce qui fait que l'Eucharistie prépare la gloire non seulement pour nos âmes, mais également pour nos corps, et donc la résurrection des corps. Elle prépare la résurrection de notre corps. L'Eucharistie remet-elle le péché mortel? En tant que sacrifice du Christ sur la croix, bien entendu, elle a la puissance de remettre tous les péchés mortels. Encore faut-il que les hommes reçoivent cela. Et par rapport à celui qui reçoit, il est évident que l'Eucharistie n'a pas pour objet direct de remettre le péché mortel. Elle a pour objet direct deux choses. Tout d'abord, c'est par elle que le baptême et le sacrement de pénitence reçoivent leur efficacité. De même que c'est par la croix et la passion que tout reçoit son efficacité dans la vie du Christ et dans les mystères du Christ et dans la vie de l'Église. Ainsi, le baptême nous oriente vers la Sainte Eucharistie, au moins en désir. Et ce désir, vous voyez, est inséparable de la conversion, il est inséparable de la charité, et donc inséparable de la remise du péché mortel. Qu'est-ce que le péché? C'est les ténèbres, et les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Il est évident que l'arrivée de la lumière, la venue de la lumière, chasse les ténèbres. Ça va ensemble. La venue de la grâce, la venue de la charité, chasse le péché mortel. Mais il y a plus que cela. Si un pécheur était en état de péché mortel, et qu'il l'oublie par exemple, et qu'il vienne communier très sincèrement, non pas de façon sacrilège, en se disant « ce n'est pas grave, je suis en état de péché mortel, mais tant pis », quelqu'un qui le ferait par respect humain, ou pour se faire bien voir, ou que sais-je encore. Mais quelqu'un qui aurait oublié, et qui recevrait la Sainte Communion, recevrait nécessairement la grâce complète, la contrition complète, parfaite, et donc la grâce. Parce qu'on ne peut pas être à la fois ami et ennemi de Dieu. Celui qui est ennemi de Dieu et qui vient en ami, s'il vient en ami avec la contrition imparfaite, c'est-à-dire encore plongé dans l'inimitié, mais avec le désir d'arriver à la véritable amitié, le bon Dieu nécessairement qui lui a tendu la main, parce que cette démarche n'aurait pas été possible justement sans la passion et donc sans la messe, le bon Dieu qui lui a tendu la main, évidemment, ne refuse pas cette main. Il le prend et à ce moment-là, il lui donne la contrition parfaite. C'est important, notamment pour les scrupuleux. Un scrupuleux pense, c'est la définition du scrupule, il juge mal et il juge qu'il est en état de péché mortel lorsqu'il ne l'est pas. Mais quelquefois, le scrupuleux est inquiet parce que peut-être qu'il lui arrive d'avoir commis un péché mortel et il se dit, si jamais j'ai mal jugé, si jamais j'ai, en faisant confiance au confesseur qui m'a dit que le péché n'était pas mortel, le péché était quand même mortel, si jamais j'ai trompé mon confesseur, ou bien alors encore le confesseur, pour rassurer le scrupuleux, lui dit « rassurez-vous, je prends cela sur moi », mais alors le scrupuleux se dit « du coup je fais commettre un péché mortel à mon confesseur », etc. Le scrupulé est dans le trouble, c'est un trouble très pénible. Eh bien, il faut qu'il sache, le scrupuleux, que si jamais, par exceptionnellement, il n'était pas en état de grâce au moment d'aller communier, mais qu'il communie par obéissance, d'une part, au représentant de Dieu, donc par obéissance à Dieu, pour faire ce que Dieu lui demande, deuxièmement, parce qu'il aime le bon Dieu et qu'il veut l'aimer, eh bien, son péché serait immédiatement effacé. Complètement effacé. Cela peut arriver également dans des cas tout à fait spéciaux, rarissimes, mais il faut que je vous parle quand même de ces cas rarissimes. Par exemple, on a eu cela chez les prisonniers, dans les camps de prisonniers, en Allemagne, ou même les camps communistes. Vous avez des prêtres qui ont confié le Saint-Sacrement à des laïcs pour donner la communion aux prisonniers, notamment à tous ceux qui étaient en danger de mort, voire même à l'article de la mort. Autrefois, cela se faisait, vous savez que Saint Tarcisius, par exemple, était un simple acolyte, il n'était pas prêtre, et l'acolyte peut être le ministre extraordinaire de la communion. Normalement, c'est à celui qui a consacré le prêtre qu'il revient de donner la communion, mais exceptionnellement, étant donné la bonté du bon Dieu, de même qu'un païen peut baptiser, un simple catholique peut exceptionnellement porter dans ses mains le corps du Christ pour le donner en communion, notamment à des mourants. On a beaucoup exagéré de nos jours, on a profité de cela pour fausser l'importance du prêtre, les modernes se font une habitude et presque une gloire de confier la Sainte Eucharistie aux laïcs et non pas aux prêtres. Du coup, les gens sont mal préparés, les malades sont mal préparés, les laïcs ne savent pas les préparer, et puis ils peuvent pas les confesser, etc. Maintenant, je reviens à des cas exceptionnels, notamment dans les camps de déportation, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, en Allemagne, ou les camps de déportation communistes. La Sainte Eucharistie était remise à des laïcs. Imaginez un mourant qui est en état de péché mortel. Ça peut se concevoir, il ne sait pas confesser depuis longtemps, il a peut-être négligé ses devoirs religieux. Eh bien, normalement, il devrait se confesser avant de pouvoir communier. Exceptionnellement, étant donné que la Sainte Eucharistie remet le péché puisqu'elle donne la charité, il peut faire un acte de contrition et communier. Vous allez me dire, s'il fait un acte de contrition, il n'est plus en état de péché mortel, il est en état de grâce. Un acte de contrition parfaite, oui, c'est l'équivalent de la grâce et de la charité. Mais un acte de contrition imparfaite dirige celui qui le pose vers la sortie du péché et vers la lumière et la chaleur de la charité, mais il ne les a pas encore atteints. Et à ce moment-là, l'adage nous dit que par le sacrement, celui qui est attrit devient contrit. Attrit, c'est la contrition imparfaite. Contrit, c'est la contrition parfaite avec la grâce. Et donc il faudrait que ce mourant n'ait aucun scrupule, il ferait un acte de contrition imparfaite, parfaite s'il le peut, il communie et il est sûr ainsi non seulement d'avoir la charité, mais d'être accompagné par le Christ jusqu'à la gloire. Peut-être en passant par le purgatoire, c'est possible, mais jusqu'à la gloire. Nous n'en sommes pas encore là. Mais nous y viendrons. L'Eucharistie va prémunir contre le péché véniel. Elle va prémunir contre les obstacles à venir. Il y a deux manières de prévenir contre les obstacles et de renforcer contre les obstacles. La première, qui est de se renforcer soi-même, et ça c'est ce que fait la communion. Et la deuxième, qui est d'être protégé comme par un bouclier, et ça c'est ce que fait la passion rendue présente par la messe. Et donc la Sainte Eucharistie chasse le démon, parce que elle est un bouclier, et en même temps, elle redonne des forces à celui qui les a perdues dans le travail quotidien, et elle le rend plus fort contre les tentations, les attaques du démon, et les péchés véniels, et même les tentations éventuellement qui pourraient aboutir à un péché mortel. C'est un argument qui est très souvent développé, mais si je fais ce sermon qui est un petit peu difficile peut-être à retenir, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, c'est justement pour que vous compreniez qu'il y a beaucoup de choses et même tout dans la Sainte Eucharistie. Et même si de ce sermon, vous ne reteniez pas tous les détails, il suffit que vous reteniez que tout ce qu'on a par la vie du Christ, et principalement par la passion du Christ, on l'obtient dans la Sainte Eucharistie, et déjà vous auriez retenu 90% du sermon, pour ne pas dire 99% du sermon. Je termine. Lorsque la crise a atteint la liturgie avec la nouvelle messe, ou plutôt les nouveaux rites de la messe, parce que il faut s'habituer à parler comme il faut. Il n'y a pas de nouvelle messe. Et il y a des nouveaux rites de la messe. Des rites impies, équivoques, dangereux, qui mènent à l'hérésie, tout ce qu'on veut. Lorsque il y eut un peu avant cela, cette mode de faire jouer aux jeunes la guitare pendant la messe. Je me rappelle très bien mon père disant « Ferait-on cela au pied de la croix ? Danserait-on au pied de la croix ? Jouerait-on de la guitare au pied de la croix ?» Bien, je crois que cela dit quasiment tout. Par la Sainte Eucharistie, nous sommes au pied de la croix, et nous recevons le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui, non pas coule sur nous, mais coule en nous. Ce sang nous lave, ce sang nous transforme. Il ne fait pas que nous laver. Il nous lave parce que nous sommes sales, hélas. Mais il nous transforme, il nous divinise, il nous donne la gloire, il nous change complètement, profondément. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les richesses de la Sainte Eucharistie. Voilà pourquoi il est important de célébrer la messe et de faire célébrer la messe non seulement pour nous, mais pour nos amis, pour nos ennemis, pour les vivants, pour les morts. Voilà pourquoi les messes même d'un prêtre seul, ce qu'on appelle une messe privée, d'un prêtre seul, a de l'efficacité. Et voilà pourquoi, même en période de confinement, les messes qui sont célébrées par les prêtres dans leurs églises vides sont quand même des messes qui répandent le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur le monde et sur vos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.